Canal Sud, 92.2, bonjour tout le monde. L'automne est riche de souvenirs amers. Et puis, il y a longtemps que nous n'avons pas parlé d'Afrique. Alors on va se rattraper un petit peu. Et Bertolt Brecht disait, dans son éloge du révolutionnaire, qu'en croit l'oppression, beaucoup se découragent. Mais son courage à lui augmente. Il organise son combat pour quelques sous, pour l'eau du thé. Pour le pouvoir d'État, il demande à la propriété « D'où viens-tu ?» Il demande aux idées « Qui servez-vous ?» Là où d'habitude l'on se tait, il parlera. Là où règne l'oppression et où l'on parle de destin, il citera des noms. Là où on le chasse, là va la révolte. Et c'est une bonne introduction à l'œuvre de Sankara. Mais qui était le personnage de Sankara? On parle beaucoup de la tornade Sankara, la tornade sociale et humaniste qu'il a représentée au cœur des Africains, et en particulier dans son pays qu'il a transformé si rapidement. Jean Ziegler était son ami. Jean Ziegler, le sociologue, si féru d'économie, sociologue suisse, dans son indépendance intellectuelle et dans sa grande humanité, a fait un portrait de Sankara qui est très juste et très touchant. Thomas Sankara, un révolutionnaire. Sankara avait-il, par une étrange prémonition, pressenti son assassinat? Nous nous étions rencontrés pour la dernière fois, Sankara, ma femme et moi, le 12 septembre 1987 à Addis Abeba, au lendemain de la proclamation de la République populaire démocratique d'Éthiopie. Dans sa résidence, le soir, nous discutions du destin de Che Guevara, exécuté 20 ans auparavant dans les montagnes de la Higuera, en Bolivie. Tout à coup, il me demanda « Quel âge avait donc le Che au moment de mourir ?»« 39 ans et 8 mois, » répondis-je. Et Sankara, songeur, de murmurer « Atteindrai-je jamais cet âge-là » S'il avait survécu, Sankara aurait eu 38 ans, en décembre 87. L'expérience de Sankara et de ses compagnons de lutte est unique en Afrique et dans le tiers-monde. L'assassinat de cet homme exceptionnel l'après-midi du 15 octobre 1987, un mois après notre conversation, fut une tragédie pour l'Afrique entière. Thomas Sankara est mort comme Salvador Allende, assassiné au cours d'un coup d'État par des militaires autochtones téléguidés par l'étranger. Blaise Compaoré, que la plupart des sources disponibles tiennent pour son assassin, devint alors président du Burkina Faso. Le discours sur la dette, tenu le 29 juillet 1987 devant les chefs d'État africains dans l'immense Africa Hall d'Addis Abeba, est probablement, parmi tous les discours de Sankara, le plus impitoyable, le plus profondément intelligent. Il mettait radicalement en question le système international qui écrase l'Afrique. Les propos tenus ce jour-là par le président du Burkina Faso sont d'une totale actualité. Je voudrais rappeler en quelques mots ce qui fonde l'autorité, la crédibilité et le rayonnement de la parole du jeune capitaine. Son discours sur la dette est nourri de son expérience publique et sociale, personnelle et singulière. Sous l'administration française, le territoire de Haute-Volta, avant de devenir une colonie à part entière, fut de 1932 à 1947 en partie rattaché à la colonie de Côte d'Ivoire. Ce fait est généralement admis comme une des origines de la pauvreté de ce pays, considéré longtemps seulement comme pourvoyeur de main-d'œuvre pour son riche voisin cacaotier. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako, ville sise à l'entrée du Sahel, entre Kaya et Waïkouya, sur la route reliant Ouagadougou au Mali, dans le royaume Mossi de Yatenga. Sa mère, Marguerite, était Mossi. Son père, Joseph, Peul. Thomas était le troisième de 10 enfants. En 1949, son père, ancien soldat colonial, était vacataire au service des postes. La famille vivait sous la colonie française, l'existence pénible du prolétariat urbain. La personnalité de Sankara était frappée d'un curieux paradoxe. Chaleureux, extraverti, passionné de débats, tendu jusqu'à l'extrême par la volonté de convaincre, rieur, aimant la musique, la fête, amateur de veillées interminables, convivial. Il était en même temps un homme secret, solitaire, fermé presque. Chrétien dans un pays majoritairement musulman, ni vrai Mossi, ni vrai Peul, dans un pays où l'identité ethnique fonde tous les rapports sociaux, Sankara semble avoir été obligé très tôt de se définir lui-même par ses propres actes, ses propres convictions. Plusieurs dirigeants africains partagent cette condition. Patrice Lumumba n'était issu d'aucune des grandes ethnies homogènes du Congo. Il était Mutelela, une ethnie dispersée à travers tout le bassin congolais par les campagnes des armées esclavagistes du sultan du Zanzibar. Le Ghanéen Kwame Nkrumah était né dans la petite ethnie d'Enzima, insignifiante, méprisée par les ressortissants de l'Empire Ashanti et des royaumes évés. La conquête de sa propre identité fut une épreuve pour le jeune Thomas Sankara. Si les féodaux Mossi, aristocrates du royaume et maîtres de la terre, regardaient de travers ce fils de Peul, les Peuls eux-mêmes ne l'acceptaient pas comme un des leurs. Vous êtes bien sur Canal Sud. Merci de votre écoute. Tirailleurs voltaïques, combattants volontaires de l'Empire français, le père de Thomas Sankara connut le parcours classique du soldat africain au service de la France. Un parcours profondément ambigu. Fidèle au drapeau tricolore, convaincu de la supériorité de l'homme blanc, ou du moins acceptant, comme un fait inéluctable, la soumission à la violence blanche. Il servit la France en Afrique, en Europe et en Asie, réprimant ses frères et reproduisant l'ordre des seigneurs sur les 3 continents. Démobilisé, il devint, comme des milliers d'autres compagnons d'infortune, un de ces prolétaires urbains vivant d'expédients et de petits travaux occasionnels. Thomas Sankara, entouré de ses frères et sœurs, grandit à l'ombre du père aimé. Révolte contre le père? Non, mais révolte contre le système. Qui, de ce père droit, honnête, solidaire de ses voisins, avait fait un complice humilié des dominateurs? Et fierté implicite, quand par sa faute pour avoir enfreint les règles, comme il lui arriva au cours de son enfance et de son adolescence, il était puni, battu, et son père incarcéré. Ainsi, à 10 ans, à l'école de Gawa, le directeur français de l'école, M. Vignon, avait un fils, Patrick. Celui-ci avait reçu pour Noël un splendide vélo. Thomas, enfant pauvre, mourait d'envie de l'essayer. Il flatta le petit Patrick, fit toutes ses volontés, lui porta son cartable. Rien n'y fit. Patrick refusait de lui prêter sa belle machine. Alors Thomas, excédé, lui arracha le vélo et partit faire un tour sur les pistes rouges du pays. Patrick hurla, alerta son père. Celui-ci appela la police. Chasse à l'homme. Le petit Sankara fut pris, battu, et son père envoyé en prison. 1960, année de l'indépendance. Thomas était élève au lycée Wesin Koulibaly à Bobo-Dioulasso. Le drapeau voltaïque avait été hissé dans la cour. Les élèves français l'arrachèrent et le brûlèrent. Conduits par Sankara, les élèves africains leur foncèrent dessus, armés de bâtons. Bagarre, cris. Intervention des policiers blancs. Le père de Thomas, tenu pour responsable des méfaits de son garnement, fut une nouvelle fois condamné à la prison. Sankara sembla pas mécontent des emprisonnements de son père. Il aimait mieux se souvenir d'un père affrontant la colère des Blancs que d'un père au service d'un drapeau honni. Deux étapes dans la prise de conscience politique de Sankara sont particulièrement importantes. Madagascar d'abord. De 1970 à 1973, il fut l'élève de l'académie militaire d'Antsirabe. Le régime néocolonial du vieux Tsirana, cacique issu de la SFIO et mis en place par la métropole, était tombé, victime de l'explosion populaire. Partout, les révoltes éclataient. Ce pays complexe, héritier d'une histoire bimillénaire, était en ébullition. La nuit, avec ses condisciples venus de toute l'Afrique, Sankara discutait des événements observés pendant la journée. Lentement, une conscience politique se formait. Des lectures intenses favorisaient cette naissance. Sankara écrivit à cette époque dans son journal « Un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance. » Un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance. Ça devrait être répété en boucle dans les écoles militaires et de police en France. Mais hélas. En 1978, Sankara fut envoyé au Maroc. De janvier à mai, il participa à un stage de formation de parachutiste. À Rabat, il découvrit l'abominable misère du peuple, le luxe insultant des classes dirigeantes, la perversion du régime néocolonial, les souffrances, le désespoir que des satrapes sans conscience infligeaient aux plus pauvres de leurs compatriotes. À son retour à Ouagadougou, fin 1978, Sankara fut nommé commandant des unités de commando. Commença alors le travail raisonné, méthodique du révolutionnaire. Prise de contact discrète avec des camarades dont l'humiliation personnelle, l'expérience politique était proche des siennes. Inventaire documenté des contradictions, des dysfonctions du système politique, de la structure économique de l'État néocolonial. Tentative toujours avortée de nouer des alliances avec les partis d'opposition, communistes, socialistes et avec les syndicats. Pendant tout ce temps, Sankara et ses amis poursuivaient leur carrière institutionnelle. Ils pratiquaient l'intégration subversive. Sankara devint secrétaire d'État à l'information. En 1982, son évidente intelligence et sa popularité amenèrent les dirigeants néocoloniaux à commettre une erreur fatale. Sankara fut nommé premier ministre par le président Jean-Baptiste Ouédraogo. À peine entré en fonction, il partit pour New Delhi, où se réunissaient en janvier 1983 les chefs d'État et chefs de gouvernement des pays non alignés. À New Delhi, son discours en séance plénière, ses interventions en commission, firent impression. Fidel Castro, président en exercice du mouvement des non-alignés, l'invita un soir dans sa villa. Cette rencontre représente un tournant dans la vie de Sankara. De plusieurs manières, Sankara découvrait concrètement les revendications, les désirs de libération communs aux peuples du tiers-monde. Il se sentit reconnu, encouragé par un révolutionnaire qui, au prix d'une formidable patience, avait su briser le carcan de la misère dans son pays. Ziegler apprendra 2 ans plus tard à La Havane combien fut forte l'impression produite par Sankara sur Fidel Castro. Autre conséquence de la conférence de New Delhi, les services secrets occidentaux et notamment français commencèrent à s'intéresser de près, de très près, à ce jeune capitaine trop cultivé, trop intelligent, trop libre d'esprit. Ainsi, Guy Penn, conseiller pour les néocolonies françaises à l'Élysée, le Monsieur Afrique de François Mitterrand, Guy Penn, donc, fit un voyage éclair à Ouagadougou. Le président Ouédraogo, qui n'avait rien à refuser à son tuteur métropolitain, comprit à demi-mot, et le 17 mai, Sankara fut arrêté. Les 20 et 21 mai, 3 jours après l'arrestation de Sankara et son transfert au camp militaire de Dori, Ouagadougou explosa. Les étudiants de l'université, les élèves du secondaire, les petits fonctionnaires guidés par la LIPAD, la Ligue patriotique pour le développement, et l'ULC, l'unité et lutte des communistes, envahirent la capitale, exigeant la libération du capitaine. Juchés sur leurs mobilettes, sur des charrettes, tirés par des ânes, à vélo, à pied, dans des autobus brinque-ballant, de tous les faubourgs, des bourgs environnants, les travailleurs, les chômeurs, les marchands ambulants convergèrent vers le centre de la capitale. Les voyous de Koulouba et de Nahabraga, les prostituées de Zagouera et Bilbambili affrontèrent les gendarmes. La puissante CSV, Confédération syndicale voltaïque, appela à la grève générale. À Pau, Blaise Compaoré, qui seul parmi tous les camarades de Sankara avait échappé à l'arrestation, organisa la résistance. Jean-Baptiste Ouédraogo ne gouvernait plus. Le pouvoir était dans la rue. Dans la nuit du 4 août, enfin, le mouvement populaire, allié aux soldats de Compaoré, libéra Sankara, qui alors prit la tête du Conseil national de la Révolution, CNR, à Ouagadougou, renversant le président Ouédraogo. Et Ziegler continue sa présentation de Sankara. Un jour de décembre 1983, dans mon bureau, le téléphone sonne, à Genève. À l'appareil, une voix inconnue, chaleureuse, impérieuse. « Ici le capitaine Sankara. J'ai lu votre livre « Main basse sur l'Afrique » en prison. Il faut que nous nous voyions d'urgence. » Je n'avais pas la moindre idée de l'identité de mon interlocuteur. Et puis, tout militaire éveille en moi une suspicion spontanée. Ma curiosité l'emporta toutefois. 3 jours plus tard, le billet d'avion me parvint. Encore 8 jours et j'étais assis à une table de bois, couverte de boîtes de viande en conserve et de haricots verts, dans une petite maison étouffante de chaleur de l'enclos de l'Entente, à Ouagadougou, en train d'écouter les 4 jeunes officiers au pouvoir depuis le 4 août. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Boukari Lingani et Henri Zongo m'expliquaient les buts de leur révolution.
mal seguro la ley que lo fa por esa po. O en barodiari, no hay ya pompitere. Conozcan coquilo, puririri. Su cabe amenara con yami. Barodiara niñere. Con un buen mundialización. A radio Gimilio. A la teta, morugolo. Mayura.
Sankara exprimait les valeurs irrépressibles de l'homme humilié, cherchant sa libération. Justice sociale, tolérance, réciprocité, complémentarité, dignité. Il y avait sans aucun doute une large coïncidence entre son discours et les espérances ardentes, les désirs de dignité, les refus de l'humiliation qui habitait des millions de jeunes Africains. Dans l'état de délabrement extrême où se trouvait alors l'Afrique, où elle se trouve encore aujourd'hui, ravagée par des satrapes corrompus et des tyrans sanguinaires, les peuples cherchaient, dans la nuit, une lumière capable de les guider. Sankara était cette flamme. Dans sa première grande déclaration de politique étrangère d'octobre 1983, Sankara, à la tête du Conseil national de la Révolution, surprit tout le monde par l'expression d'une indépendance d'esprit indomptable. Le gouvernement prenait position pour le Nicaragua sandiniste, pour la lutte de libération au Salvador, pour celle du Polisario au Sahara occidental et contre l'invasion américaine de la Grenade. 3 jours passèrent, puis l'ambassadeur Walker, envoyé spécial et représentant permanent du président Reagan à Ouagadougou, demanda audience. Debout devant le bureau de Sankara, il lut une note diplomatique. « La Haute Volta ne connaît rien à la situation en Amérique centrale. Elle est trop loin. » Mais si son gouvernement continue à se mêler des affaires de l'Amérique centrale, le gouvernement des États-Unis se verrait contraint de réexaminer tous ses accords de coopération et programmes d'assistance avec ce pays. Chantage pur et simple. Exercé par la première puissance militaire, politique et économique sur le 9e pays le plus pauvre de la planète. Sankara écouta, se leva et dit: j'ai compris. Je vous remercie. Et il ouvrit la porte, invitant Walker à se retirer. Par un curieux hasard du calendrier diplomatique, la Haute Volta devait, 3 mois plus tard, le 1er janvier 1984, devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle occupa ce poste conformément au règlement pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois, la Haute Volta vota constamment avec le Nicaragua sandiniste et contre les États-Unis. C'est toujours Contre Histoire sur Canal Sud. Encore un petit effort, Sankara le mérite. C'est pour le premier anniversaire de la Révolution, le 4 août 1984, que le gouvernement de Thomas Sankara changea le nom français de Haute Volta pour Burkina Faso, en s'inspirant des 3 langues indigènes couramment parlées, Burkina signifiant intégrité, honneur, en Maoré, Faso, territoire ou état, en Dioula, et l'adjectif invariable Burkinabé désignant la citoyenneté. Le Nicaragua, avec Daniel Ortega, venait aussi de connaître une révolution de 1979 à 1984, qui visait l'indépendance du pays en chassant une dictature mise en place notamment pour le bénéfice des compagnies fruitières des États-Unis d'Amérique et maintenant le pays dans la pauvreté. Octobre 1986 à Moscou. Sankara achève sa première visite officielle en Union soviétique. Au centre Novosny, il tient la classique conférence de presse des chefs d'État invités. Comme de coutume, les journalistes soviétiques cherchant à établir le lien, l'identification du processus révolutionnaire africain avec le coup d'État de Lénine en 1917, pressant Sankara de questions, guettant le moindre signe d'une possible assimilation. L'interviewé comprend immédiatement le jeu. Il répond longuement à chaque question, fait doctement et d'une voix grave l'éloge de la révolution d'octobre, du marxisme-léninisme, de l'internationalisme prolétarien, des dernières propositions de Gorbatchev. Puis, brusquement, il s'arrête. L'œil brillant de malice et joyeux, il dit « Votre révolution doit beaucoup à l'hiver. » Mais il n'y a pas d'hiver chez nous. Volonté têtue d'indépendance. Revenons maintenant au discours sur la dette. Dans notre Europe, la conscience d'État triomphante, toute idée de rupture avec l'ordre meurtrier du monde, relève de l'utopie et même plus communément du délire. Un révolutionnaire chez nous est considéré au mieux comme un original sympathique, une sorte de clochard de l'esprit, un illuminé, inoffensif, ou un marginal pittoresque, au pire comme un inquiétant trublion, un déviant, un fou. La réelle politique gouverne la planète, son idéologie légitimatrice. Un économisme rigoureux, un chauvinisme sans faron, une doctrine des droits de l'homme à usage discriminatoire. J'exagère. Les États-Unis, la France, la Suisse, l'Angleterre et bien d'autres États occidentaux abritent à l'intérieur de leurs frontières des démocraties réelles, vivantes, respectueuses des libertés et des revendications, au bonheur de leurs citoyens. Mais dans leurs empires coloniaux, néocoloniaux, face aux peuples périphériques qu'elles dominent, ces mêmes démocraties occidentales pratiquent ce que Maurice Duverger appelle le fascisme extérieur. Maurice Duverger, ce sociologue français né en 1917, spécialisé en sciences politiques, on lui doit notamment le concept d'empire et aussi la démocratie sans le peuple, puis l'Europe des hommes chez Odile Jacob. Les constitutions de la France dans la collection des Que sais-je, etc., etc. Maurice Duverger, donc, parlait du fascisme extérieur. Dans beaucoup de pays de l'hémisphère sud, depuis près de 50 ans, tous les indicateurs sociaux, sauf l'indicateur démographique, sont négatifs. La sous-alimentation, la misère, l'analphabétisme, le chômage chronique, les maladies endémiques, la destruction familiale sont les conséquences directes des termes inégaux de l'échange, de la tyrannie de la dette. Les démocraties occidentales pratiquent le génocide par indifférence. Régis Debray constate « Il faut des esclaves aux hommes libres. » La fragile prospérité de l'Occident est à ce prix. Il faut des esclaves aux hommes libres, a dit Régis Debray. Dans Le tiers-monde et la gauche, collectif, au Seuil en 1979. Périodiquement, à la périphérie, des hommes et des femmes se lèvent, refusent cet ordre du monde et revendiquent pour eux-mêmes, pour leur peuple, une chance de vie. Thomas Sankara et de ses hommes. Mystère de la liberté humaine. Ces insurrections de l'esprit ont généralement lieu dans les contrées les plus démunies, les plus affligées. Le Burkina Faso était en 1983, au moment de la prise de pouvoir de Sankara, le 9e pays le plus pauvre de la Terre, si l'on considère le revenu par tête d'habitant. Sur la liste publiée par la Banque mondiale cette année-là, le Burkina Faso figurait en 161e position. Le déficit alimentaire du pays était de 200 000 tonnes céréalières. L'infrastructure industrielle inexistante, les réseaux routiers, ferroviaires rudimentaires, l'espérance de vie, la moitié de celle de la France. Le budget de fonctionnement de l'État, déficitaire en permanence. Chaque année, dès le mois d'octobre, le Burkina Faso devait quêter à l'extérieur les fonds nécessaires au paiement de son fonctionnariat pléthorique et largement parasitaire. L'héritage institutionnel, enfin, totalement inadapté aux exigences d'un développement accéléré, autocentré, d'un pays à l'agriculture primitive et à l'accumulation interne inexistence. Thomas Sankara et les siens combattirent pendant 4 ans, avec la dernière énergie, chacun de ses fléaux. Chaque homme est le produit d'une histoire multiforme, contradictoire, et une volonté personnelle, elle-même tributaire d'une histoire familiale, clanique. Jean-Paul Sartre disait « Il ne s'agit pas de savoir ce que nous voulons faire de notre liberté. La question est « Que voulons-nous faire de ce qu'on a fait de nous ?» Les peuples des pays pauvres se tuent au travail pour financer le développement des pays riches. Le Sud finance le Nord, et notamment les classes dominantes des pays du Nord. Le plus puissant des moyens de domination du Nord sur le Sud est aujourd'hui le garrot de la dette. Les flux de capitaux Sud-Nord sont excédentaires par rapport aux flux Nord-Sud. Les pays pauvres versent annuellement aux classes dirigeantes des pays riches beaucoup plus de valeur qu'ils n'en reçoivent d'elles sous forme d'investissements, de crédits, de coopération, d'aide humanitaire ou d'aide dite au développement. En 2012, l'aide publique au développement fournie par les pays industriels du Nord aux 122 pays du tiers-monde s'est élevée à 88 milliards de dollars. Durant la même année, ces derniers ont transféré aux cosmocrates des banques du Nord une somme supérieure au titre du service de la dette et donc des intérêts. Celle-ci est l'expression même de la violence structurelle qui habite l'actuel ordre cannibale du monde. Point n'est besoin de mitrailleuses, de napalm, de blindés pour asservir et soumettre les peuples. La dette, aujourd'hui, fait l'affaire. La dette extérieure constitue une arme de destruction massive. Elle soumet les peuples, détruit leur velléité d'indépendance, assure la permanence de la domination planétaire des oligarchies du capital financier globalisé. En 2013, toutes les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim. 57 000 êtres humains périssent chaque jour par la faim. Près de 1 milliard des 7 milliards d'êtres humains que nous sommes souffrent de sous-alimentation permanente et grave. Cela se passe sur une planète qui pourrait, selon la FAO, nourrir normalement, avec 2 200 calories par individu adulte et par jour, pourrait normalement nourrir 12 milliards d'êtres humains. L'Afrique est le continent qui, au prorata de sa population, compte le plus grand nombre d'affamés, 36,2% en 2012. En chiffre absolu, c'est l'Asie qui l'emporte dans ce dramatique décompte. Dans son discours de 1987, Sankara l'affirmait avec force. Le garrot de la dette extérieure empêche les pays les plus démunis de réaliser les investissements minima dont leur agriculture a urgemment besoin. En 2012, les 54 États d'Afrique, dont 37 sont des pays purement agricoles, aux terres vastes et fertiles, sous-peuplées, ont dû importer pour 24 milliards de dollars de nourriture du fait de l'insuffisance d'investissements dans l'agriculture. Les semences sélectionnées, les engrais minéraux, les engrais animaliers font défaut. 250 000 animaux de trait sur le continent et moins de 85 000 tracteurs. La houe, ou la pioche, et la machette restent en 2014 encore les principaux outils de production. Seuls 3,8% des terres arables au sud du Sahara sont irriguées. Le reste relève de l'agriculture de pluie, avec tous les risques meurtriers que les aléas du climat impliquent. Sankara dressait l'impitoyable inventaire des ravages de la dette, mais il allait plus loin. Il s'attaquait à la théorie de légitimité, utilisée par les maîtres de la dette pour imposer et justifier leurs pratiques criminelles. Ceux-ci utilisent un argument apparemment imparable. Si les pays de l'hémisphère sud ne payaient plus aux banques du Nord les intérêts et tranches d'amortissement de la dette, le système financier mondial tout entier s'effondrerait. Sankara, dans son discours, démontre que c'est un mensonge. Les événements des décennies suivant son assassinat allaient démontrer qu'il avait raison. Les versements effectués au cours des 10 dernières années, 2002-2012, par les 122 pays du tiers-monde au titre du service de la dette, et donc des intérêts, vers les États et les banques des pays du Nord, se sont élevés à moins de 2% du revenu national cumulé des pays créanciers. 13 ans après l'assassinat de Sankara, en 2000, une crise boursière violente a secoué la quasi-totalité des places financières, en détruisant pour plusieurs centaines de milliards de dollars de valeur patrimoniale. En 2 ans, de nombreux titres cotés en bourse ont perdu jusqu'à 65% de leur valeur. Pourtant, malgré l'ampleur des capitaux anéantis, la crise boursière de 2000-2002 n'a pas provoqué l'effondrement du système bancaire mondial. Les places financières ont digéré ces pertes sans problème majeur. Depuis lors, de nouvelles crises encore plus graves ont secoué les bourses du monde en causant des pertes sévères dont les maîtres de la finance se relèvent en faisant payer le prix au peuple. Pourquoi ne pas procéder à l'annulation de la dette des pays les plus pauvres de la planète? Parce que la dette permet de maintenir l'état débiteur à genoux. La dette est administrée par le Fonds monétaire international, FMI. Périodiquement, l'état débiteur est insolvable, alors les corbeaux noirs du FMI descendent sur la capitale. Contre l'octroi de nouveaux crédits, ils imposent au peuple débiteur un PAS, un programme d'ajustement structurel. Ce programme comporte une salve de mesures qui toutes visent à privatiser au maximum les services publics. Privatiser au maximum les services publics, condition de l'asservissement complet du pays. Office de commercialisation des biens de base, office vétérinaire, industrie naissante, ports, hôpitaux, etc. Et donc à ouvrir aux sociétés transcontinentales privées l'accès à l'économie autochtone. Le discours sur la dette de Sankara délivré aux chefs d'État africains réunis à Addis Abeba en 87 est un chef-d'œuvre de lucidité et de courage, d'intuition fulgurante et de vérité analytique. Moins de 3 mois plus tard, son auteur et 11 de ses compagnons furent exécutés à la mitraillette dans une maison de l'enclos de l'Entente à Ouagadougou. Thomas Sankara a payé de sa vie son discours visionnaire sur la dette. Discours qu'on ne répétera jamais assez. Et que voilà. Ce discours fut prononcé à la 25e conférence du sommet des pays membres de l'OUA à Addis Abeba. L'OUA désigne l'organisation de l'unité africaine qui exista à Addis Abeba de mai 63 à juillet 2002 et qui regroupa jusqu'à 53 pays. Son objectif fut de ne faire entendre qu'une seule voix, unie et solidaire, en Afrique. Elle s'opposa à la néocolonisation, à l'apartheid, et créa même un comité afin d'aider des mouvements indépendantistes. L'OEA fut remplacée en 2002 par l'UA, l'Unité africaine. Alors donc, À Addis Abeba, le 29 juillet 1987, sous la présidence du chef de l'État de Zambie, Kenneth Kaunda, le père de l'indépendance de son pays. Thomas Sankara s'exprima ainsi. « Monsieur le Président, messieurs les chefs des délégations, je voudrais qu'à cet instant, nous puissions parler de cette autre question qui nous tiraille, la question de la dette, la question de la situation économique de l'Afrique. Autant que la paix, elle est une condition importante de notre survie. Le Burkina Faso voudrait dire tout d'abord sa crainte. La crainte que nous avons, c'est que les réunions de l'OUA se succèdent, se ressemblent, mais qu'il y ait de moins en moins d'intéressement à ce que nous faisons. Monsieur le Président, combien sont-ils, les chefs d'État qui sont ici présents, alors qu'ils ont dûment appelé à venir parler de l'Afrique en Afrique? Monsieur le Président, combien de chefs d'État sont prêts à bondir à Paris, à Londres, à Washington, lorsque là-bas on les appelle en réunion, mais ne peuvent pas venir en réunion ici, à Addis Abeba, en Afrique? Ceci est très important. Je sais que certains ont des raisons valables de ne pas venir. C'est pourquoi je voudrais proposer, Monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas à l'appel. Faisons en sorte que par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés et comme ça tout le monde viendrait aux réunions ici. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que la question de la dette est une question que nous ne saurions occulter. Vous-même, vous en savez quelque chose dans votre pays. Vous avez dû prendre des décisions courageuses, téméraires même. Des décisions qui ne semblent pas du tout être en rapport avec votre âge et vos cheveux blancs. Son Excellence, le président Habib Bourguiba, qui n'a pas pu venir, mais qui nous a fait délivrer un important message, donnait cet autre exemple à l'Afrique, lorsqu'en Tunisie, pour des raisons économiques, sociales et politiques, il a dû lui aussi prendre des décisions courageuses. Mais, Monsieur le Président, allons-nous continuer à laisser les chefs d'État chercher individuellement des solutions aux problèmes de la dette, avec le risque de créer chez eux des conflits sociaux qui pourraient mettre en péril leur stabilité et même la construction de l'unité africaine? Ces exemples que j'ai cités, il y en a bien d'autres, qui méritent que les sommets de l'OEA apportent une réponse sécurisante à chacun de nous quant à la question de la dette. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme, où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement. Des bailleurs de fonds. Un terme que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, pour 60 ans, même plus, c'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, sous sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme, est une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement, obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier. C'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie, de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. Parce que d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyez-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il n'y avait point de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le Président. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer. La dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Le plan Marshall fut un dispositif financier conçu après la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis afin de relever l'Europe détruite par les bombardements. Il s'agissait d'un prêt conditionné à l'achat de biens de consommation « Made in USA » par les pays débiteurs. Ce dispositif, tout en relançant l'économie européenne, permettait aux États-Unis de maintenir leur croissance due à la guerre. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. C'est toujours Contre-Histoire sur Canal Sud. Encore un petit effort, Sankara le mérite. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face aux richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Thomas Sankara fait ici allusion à la politique d'apartheid pratiquée alors en Afrique du Sud, Soweto étant à l'époque une banlieue pauvre abritant les Noirs et Johannesburg, la capitale économique occupée par les Blancs. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier. Équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent de la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Club organisé par les grandes puissances économiques pour s'entendre sur une gouvernance mondiale. Le Club de Rome fut créé en avril 68, le Club de Paris en 1956, ce dernier regroupant 19 pays créanciers qui se réunissent pour négocier les dettes publiques. Le Club de Londres s'occupe de la même chose, mais les créanciers permanents sont les banques. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10 peut-être, du groupe des 100. Et que sais-je encore, il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba, contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres qu'en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne seront pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc notre club, parti d'Addis Abeba, devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne payeraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands des voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille. tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent les peuples. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous le souhaitons. Je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité et sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans des exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple Fidel Castro. Il a déjà dit qu'il ne fallait pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, que les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre de Norvège. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré qu'au moins en ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi il est normal qu'elle paye en contribution ici. Vous êtes toujours sur Contre-Histoire et vous saurez presque tout sur Thomas Sankara. Mais monsieur le Président, ce n'est pas ici de la provocation. Je voudrais que très sagement vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire très clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux ou belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous courrons à notre développement. Je voudrais terminer en disant qu'à chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain, mais pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique, c'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la question de la résolution de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais, monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède. Et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique. Parce que notre sol et notre sous-sol sont riches, nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer. Ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique, consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour vêtir les Burkinabés. Ma délégation et moi-même sommes habillés par nos tisserands et nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode. Mais je veux simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà qui était Sankara. Nous reparlerons de la dette. Il faut se souvenir du pillage de l'Afrique au siècle passé, qui a permis à l'Occident d'enrichir les cours des derniers monarques, puis de construire la révolution industrielle et le capitalisme, exploiteur d'Afrique et d'ouvriers, européens d'abord, avant de faire venir une main-d'œuvre moins chère du Maghreb, d'Afrique subsaharienne et d'Asie. Sans les mines de fer, de cuivre, de plomb, de bauxite, de zinc, sans le caoutchouc et les bois précieux africains, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle en Europe. Et il nous faut observer lucidement ce que notre confort du XXIe siècle doit à ce continent éventré, pollué, affamé, au nom de notre modernité. Nos smartphones que l'on jette si facilement, nos bijoux, les chaînes de production de voitures électriques qui s'installent partout, les panneaux solaires, les centrales nucléaires, et plus prosaïquement, les haricots verts produits à contre-saison pour l'Europe, avec les roses et le café, en sacrifiant les cultures vivrières locales sur les terres les plus fertiles, pour pouvoir payer la dette. C'est ça le progrès. À coups de terres rares, extraites par des petits-enfants parfois. Or, argent, manganèse, tungstène, platine, uranium, cobalt, titane, tantale, chrome, étain, palladium, phosphate, nickel, bauxite, pétrole, acajou, diamant, palissandre, rubis, graphite, basalte, émeraude, caoutchouc, eucalyptus, gaz, cacao, saphir, topaz, antimoine, néodyme, cérium, lanthane, europium, yttrium, gallium, rhénium, indium, terbium, dysprosium, germanium, praséodyme, et j'en oublie bien sûr. Que ferions-nous sans tous ces trésors que nous puisons en Afrique à vil prix, fort de la dette odieuse que nous agitons énergiquement pour faire baisser les cours? Quel continent doit une énorme dette à l'autre? L'Europe, bien sûr. Et pourtant, la dette, telle que la calcule le FMI, est remboursée plus de 4 fois par l'Afrique, avec le système des intérêts, que les économistes appellent pudiquement le service de la dette. Entre 1970 et 2012, les remboursements africains se sont élevés à 435 milliards de dollars, soit 4 fois le capital emprunté à l'Occident. Vous avez dit dette? Alors, la dette à qui? Nous reparlerons de la dette, sujet inépuisable, et dont il faudra bien prendre conscience, parce que sinon, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui, aux menaces que les gouvernements conservateurs agitent sous notre nez, et et aux relations avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Toujours victime. Pour aujourd'hui, c'est fini l'économie. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.